93.1. 1,
2, 3, 4.
Quand la musique s'arrêtera, ramasse ton pistolet.
Tâchez d'éviter ces explosions d'injures et de mots orduriers qui ne peuvent que gâter une affaire.
Je n'ai jamais vu quelqu'un tuer un poisson comme vous l'avez fait.
Alors vous n'avez jamais rien vu.
Salut à tous, c'est Popcorn et Banjo, la seule émission de cinéma qui diffuse exclusivement de la musique country. Popcorn et Banjo s'inscrit dans le créneau Vive le cinéma de Aligre FM 93.1. À ma gauche, Charles Lemoine, superviseur musical et photographe. Salut Charles.
Bonjour Thomas.
Et moi-même, Thomas Révoy, réalisateur, journaliste et photographe. Comme vous le savez peut-être déjà, nous sommes tous les deux cinéphiles et nous croyons autant dans le dématérialisé que dans le support physique. Dans cette émission, nous reviendrons d'abord sur les films et séries qui nous ont marqués en 2024. Un petit tour d'horizon de nos coups de cœur, de nos surprises ou de nos découvertes. La pause musicale country de cette quatrième émission nous emmènera à la découverte d'une musicienne japonaise, Tomi Fujiyama. Puis, pour rester dans la thématique, et tout ça n'est pas le fruit du hasard bien entendu, nous resterons le long des côtes japonaises avec deux sorties Blu-ray et cinéma à venir, Ichi the Killer d'abord, puis le sublime La Vengeance de la Sirène, ensuite deux films qui sont disponibles aux éditions Carlotta. Popcorn et Banjo la quatrième, elle s'appelle Mad Japan, c'est sur Aligre FM 93.1 et c'est parti.
Vous écoutez Aligre FM 93.1.
Alors Charles, pour commencer cette émission, je te laisse un peu me dire ce que tu penses de 2024, de cette année, et puis me dire un petit peu les films ou les séries. Je sais qu'il y a pas mal de séries de ton côté qui ont retenu un peu ton attention.
Cette année, j'avoue, l'année cinéma n'a pas été grandiose pour moi, mais j'ai aimé quand même quelques séries, par exemple Arte, dont je voulais parler aujourd'hui. La première série que j'ai adorée cette année, c'est une série de Émilie Tronche, une série en 21 épisodes de 6 minutes, ouais, qui est disponible sur Arte sur YouTube et qui s'appelle Samuel, sur l'histoire d'un petit garçon dans les années 2000 et un peu de ses états d'âme qu'il écrit dans son carnet. Et c'est un dessin animé qui est tout simple en termes de dessin, qui est avec vraiment un fond blanc, qui est très presque minimaliste et qui, en même temps, a une beauté. Émilie Tronche a réussi à me rappeler notre passé des années 2010 quand on était môme, avec les musiques qui vont avec, les peines de cœur, etc. Mais sauf que je crois que c'est la première fois que je ressens cette nostalgie. Ouais. J'ai l'impression que c'est une des premières fois que je vois un film qui parle un peu de nos années à nous.
Ou une série
qui parle de nos années à nous. Et ça m'a vraiment, ça m'a tellement touché. Et la musique, les choix musicaux, je trouve, sont géniaux. Il y a des reprises, il y a des...
Oui, ça toujours... change à chaque épisode. Hein.
Ouais, à chaque épisode, ça change. Et puis, il y a des chorégraphies qui vont avec. Comme on est dans la tête de Samuel, il y a des moments où il va danser, des moments où il part sur la lune. Et il y a des trucs un peu fantasmés, fantastiques, fantasques, qui ont fait que j'ai adoré cette série. Vraiment, je crois que c'est un de mes plus gros coups de cœur de l'année.
Ouais, ouais.
Je sais qu'elle va faire une saison 2 là, et j'ai qu'une hâte, c'est que ça sorte sur Arte, quoi.
Mais ça a été un énorme succès, ça a été dithyrambique au niveau critique, au niveau spectateur. Moi aussi, je suis totalement aligné avec ce que tu dis, c'est extraordinaire. Et puis moi, ça m'a renvoyé, tu parlais de l'imaginaire de notre jeunesse, etc. Moi, c'est vrai que ça me renvoie aussi, je sais pas si toi tu les as lus enfant, mais il y a un côté un peu petit Nicolas.
Ah oui, carrément, il y a un peu de ça.
Qui est hyper intéressant. Et moi, ça me faisait, enfin, c'était des bouquins, je me souviens quand ça sortait, mais c'était les grands moments d'éclat de rire et en même temps qui touchait toujours à une vérité profonde, quoi. Bah, sous les travers d'une certaine naïveté enfantine, on dit des choses justes et vraies, quoi. Et je trouve que Samuel, il y a beaucoup de ça. C'est-à-dire qu'en apparence, c'est très simple, très enfantin, et en fait, ça dit des trucs tellement vrais, quoi.
Bah, sur la complexité de l'amour, quand t'as 10 ans, quand il y a une petite nana qui est à côté de toi, tu fonds, t'oses pas lui parler, t'es collé contre la vitre du bus. C'est vraiment, il y a des sensations, même quand ton meilleur copain, finalement, c'est plus ton meilleur copain et c'est quelqu'un d'autre. Et en fait, la vie change tellement à ces âges-là. Et
tout d'un coup, tout s'effondre. Tu veux mourir.
C'est vraiment, il y a un déménagement et c'est la fin du monde, quoi. Je pense que ça fait partie de vraiment de tout confondu, cinéma ou série. C'est vraiment, c'est mon top fiction de cette année, quoi, quasiment.
Et toi, t'es plus au fait que moi sur ce genre de... Sur l'animation, en fait, moi, j'ai plus de mal. Je m'intéresse de plus en plus à l'animation depuis qu'on en discute beaucoup ensemble.
Je te harcèle, ouais, avec ça.
Ouais, voilà.
Ouais, complètement, mais, on peut dire ça. Harcèlement moral. Mais je te commence à te briser, en fait. Donc,
c'est pas plus mal, ça me plonge là-dedans. Je dois reconnaître que j'aime beaucoup la simplicité du trait et c'est fou, en fait. Tout ce qui s'ouvre, enfin, tu vois, par
tout
exemple,
ce qui se dessine.
Ouais, tout ce qui se dessine et toutes les possibilités qui s'ouvrent avec un trait aussi simple, quoi. C'est, enfin, j'ai trouvé ça aussi étonnant et super intéressant.
Ouais, et encore, t'as pas vu les deux coups de cœur que j'ai, qui sont aussi le Flo et le robot sauvage,
ouais.
Qui sont aussi deux films d'animation que j'ai trouvé vraiment super cette année.
Ouais, ouais.
Vraiment
énorme succès pour Flo aussi, qui a eu le Golden Globe.
Exactement, et c'est quand même un plus petit film que Le Robot Sauvage, qui est DreamWorks. Mais ces deux films-là sont vraiment... parce que ça fait quand même quelques temps que Disney, pour moi, tourne un peu à plat, quoi. Enfin, ça tourne un peu en rond et ça devient compliqué. Et ça fait du bien de voir des films comme ça arriver, qui sont en même temps aussi bien pour les adultes que pour les enfants, et qui ont en plus des thématiques assez fortes. C'est vraiment génial. Mais l'autre série aussi que j'ai adorée, en tout cas, qui est aussi disponible sur Arte, aussi sur YouTube, donc vraiment, ça, vous pouvez le voir dès à présent, c'est Ceux qui rougissent, que j'ai trouvé aussi assez formidable, même si, bien sûr, il y a quelques défauts dont je pense que tu pourras nous en parler. Mais moi, j'ai trouvé cette série quand même très touchante, très, très juste, quand même, sur l'adolescence. Ah oui, pour faire un petit pitch quand même, peut-être, de Ceux qui rougissent, c'est une série de Julien Gaspard Oliveri en 8 épisodes de 10 minutes, donc c'est aussi très court, et sur des lycéens en option théâtre qui vont avoir un prof remplaçant qui... Et ce prof va un peu les pousser dans leur retranchement. Et pareil, il y a une espèce de fragilité de l'adolescence que moi, je me retrouve vraiment sincèrement dans ces gamins-là, de ce que moi, j'étais aussi à l'époque, avec ce prof qui est parfois un peu compliqué, mais qui arrive à ouvrir des gamins qui étaient jusqu'à présent, en fait, très renfermés sur eux-mêmes, ou en tout cas qui n'arrivaient pas à s'exprimer. Et moi, c'est vraiment ce que je retiens de cette série.
Ouais, je comprends.
Alors que toi, je crois que tu n'as vraiment effectivement...
Non, alors, bon, d'abord, c'est important de le dire, mention spéciale aux comédiens.
Ils sont tous super, ils sont tous les gamins.
Extraordinaires, tous. Ils sont justes, ils sont... Vraiment, c'est une leçon de théâtre et de cinéma auprès de tous ces acteurs, quoi. Ils ont chacun quelque chose à défendre, et ça, je les ai trouvés étonnants et passionnants, et j'ai pris une claque. Et pour moi, les moments forts de cette série viennent vraiment exclusivement de ça. En revanche, je trouve que c'est... je trouve que c'est une série qui est inquiétante sur la manière dont on donne des cours de théâtre. Et c'est l'histoire d'un... On suit les cours de théâtre de ce prof, et je trouve que c'est problématique de voir comment il pousse ses enfants dans un lieu où ils ne sont pas... il n'est pas sécurisant pour eux. Le prof est totalement border, mais totalement border. Et résultat, effectivement, sous prétexte d'emmener ces jeunes à la recherche d'une certaine fragilité, d'une certaine sensibilité, de les aider en fait à s'ouvrir aux émotions qui les traversent, il les fait traverser, il les emmène dans des choses qui sont extrêmement difficiles, il les manipule, il leur parle mal, il leur coupe la parole violemment, il les pousse dans leur retranchement sans les accompagner. Il leur fait un vrai travail aussi psychanalytique, à un moment où il y a presque carrément comme une constellation familiale où chacun prend le rôle d'un membre de la famille.
Ouais, j'adorais cet épisode.
Mais ouais, mais c'est des choses qu'on fait en psychanalyse avec des professionnels, et donc moi, ça m'a gêné parce que j'ai trouvé le professeur pas du tout à sa place. Alors oui, il sort quelque chose de ces jeunes.
T'as dû détester quand la fin de l'épisode, du coup, aussi, où il verse une petite larme.
Ouais, bien sûr.
Mais ça odieux.
Ben en fait, il est sur un.
Il fait sa propre psychothérapie.
Mais oui, tout d'un coup, le prof fond en larmes. Enfin, il y a pas de. Faut pas oublier que c'est des jeunes qui sont fragiles et ils sont face à quelqu'un. Ils sont pas sur un terrain d'égalité en fait, et c'est dangereux. Et moi, ça m'a choqué. C'est vraiment une série qui est venue me chercher dans des lieux que je connaissais pas. Enfin, ça m'a vraiment énervé, profondément agacé. Ça m'a fait peur. Ce qui veut dire que c'est une série quand même intéressante. On a des avis très tranchés dessus. Mais je trouve ça inquiétant d'avoir une fascination pour cette mise en scène du théâtre qui n'est pas forcément, à mon avis, la seule manière d'aller se connecter à ses émotions. Moi, ça m'a inquiété, quoi. Mais bon, le fait est que c'est une série qui a eu un retour critique dithyrambique. J'ai regardé, je me suis même demandé, passé les trois premiers épisodes, si ça allait pas être une dénonciation, en fait, d'une certaine violence professorale, mais en fait, pas du tout. C'est très premier degré. mais je me suis vraiment posé la question.
Moi, je t'avoue, encore une fois, comme c'est une série assez courte, qui, ouais. Chaque épisode dure 10 minutes sur 8 épisodes, à chaque fois, moi, j'ai plus l'impression qu'en fait, comme le réal, et qui est aussi donc, l'acteur, le professeur, oui. Est aussi le créateur de la série, et c'est aussi le réalisateur, et j'ai l'impression que comme il a que 10 minutes à chaque fois, et ben, il est obligé de...
Il condense.
Ouais. Il condense et il montre juste un extrait, comme si d'un coup on était projeté dans la salle et on fait « Bon alors, c'est maintenant que ça se passe et on va vous montrer le moment un peu important. » Et après, effectivement, tu sais pas ce qui se passe avant, tu sais pas ce qui se passe après, tu sais pas à quel point il encadre ou pas. C'est vrai qu'il y a des épisodes où en fait il dit « Bon allez, la classe est terminée, vous pouvez partir.
Ouais. »
Donc effectivement, bon. Mais moi j'ai plus pris ça comme une espèce de focalisation très précise pendant...
D'un moment.
Un moment. Vraiment chopé.
Bah,
et après, par contre,
raison.
Effectivement, il y a un personnage qui arrive en cours de saison.
Stéphane.
Ouais, dans les 3-4 derniers ouais, épisodes. Et où là, ça marche beaucoup. Enfin, ça marche pas, en fait. Tu comprends pas très bien ce que fout ce personnage-là. Tu sens que c'est juste pour essayer de faire un peu, justement, de créer de la fiction, un peu, je trouve. Un peu plus de... En tout cas, de créer quelque chose de plus, ouais, de plus fictionné. Et ça marche beaucoup moins. Mais n'empêche que... Les acteurs qui ont tous, je sais pas, ils ont dû avoir 15 piges grand max, ils sont tellement incroyables, tellement forts, que au final, j'en retiens quand même plus de positif que de négatif dans cette série.
Non, c'est sûr, ça c'est une leçon d'actorat à cet endroit-là, et après tu peux me dire que, étant donné que c'est aussi un miroir des cours, au cours Florent de ce professeur, qui est lui-même prof au cours Florent, bah, quelque part, ça fonctionne. Il emmène ces jeunes dans des endroits où après on a des... Mais comme on ne voit pas ce qui se passe avant et après, j'espère que tu as raison et qu'il y a un cadre, etc. Et qu'après, il leur permet de revenir, de sortir de cet état de fragilité. Parce que moi, ce que je vois, c'est quelqu'un qui pousse des élèves sans direction, simplement pour les fissurer et leur faire ressentir des choses. Mais il n'y a jamais de direction, c'est jamais pour... En tout cas, on ne voit pas à l'écran... Pourquoi
il fait tout ça
Pourquoi il fait tout ça? Et résultat, je trouve ça très gratuit et dur.
Ouais, alors que pour moi, au contraire, il fait tout ça justement pour les ouvrir et parce que simplement, quand t'es adolescent, et en tout cas, moi, c'est comme ça que je me suis projeté aussi, hein, faut bien avouer, c'est tellement enfermé, tellement effondré sur soi-même, vraiment, qu'en fait, il faut qu'il y ait quelqu'un qui te secoue un peu parce que sinon, en fait, jamais. Mais peut-être parce que aussi, je me projette ça parce que j'ai eu un professeur qui était peut-être un peu comme ça aussi, mais qui m'a vraiment. Tu vois, enfin. Je pense, j'avoue, cette série, moi, elle m'a aussi vraiment touché personnellement, quoi. Donc, là où, par exemple, un Whiplash me gêne beaucoup, sur ce truc d'excellence où il faut se faire du mal, la douleur pour réussir, un truc un peu... Enfin, une pensée que je trouve un peu compliquée.
Mais Whiplash le dénonce.
Ah, j'ai pas l'impression.
Ah si, le film le dénonce.
Ah, alors ça, c'est encore un autre débat, mais okay. Alors, je suis pas du tout d'accord. Parce qu'après,
le film fait pas l'apologie de ça. Hein.
Ah bah, j'ai l'impression, parce que quand tu vas dans La La Land, ça reprend au système-là, et la fin, elle est pareille. C'est pour réussir, faut se punir. Enfin, il y a toujours un délire de punition autour du succès, de la réussite et du talent et de l'art. Mais du coup, j'ai pas retrouvé ça, justement, dans cette série.
Ouais, ça je comprends.
Et après en cinéma, franchement pas grand chose.
Alors moi j'ai un film,
mais toi je sais que t'as été à fond.
Moi j'ai un coup de cœur de cinéma, mais extraordinaire. Bon d'abord, personnellement j'ai bien aimé cette année, vraiment. J'ai découvert plein de choses plein de pays différents, mais j'ai un coup de cœur français. C'est Photogénico de Marcia Romano, co-réalisé par Marcia Romano et Benoît Sabatier. Marcia Romano, c'est une énorme pointure de l'écriture. J'avoue, je ne savais pas. Alors, j'ai un peu creusé dans sa filmo. Elle est créditée dans des dizaines et des dizaines de collaborations au scénario sur 20 Dieux, par exemple, le premier film de Louise Courvoisier qui est excellent, Second Tour de Dupontel, Revoir Paris de Alice Vinocourt et vraiment beaucoup, beaucoup d'autres. Et là, c'est un film sur l'histoire d'un père qui a perdu sa fille et il décide d'aller dans la ville où sa fille est morte, c'est-à-dire Marseille, et partir à la recherche des gens qui ont côtoyé sa fille. Et j'ai trouvé le film extraordinaire, c'est vraiment Marseille sous acide avec des acteurs magnétiques, notamment l'acteur principal qui est complètement dingue, pas où, avec une musique, peut-être tu nous en diras plus, mais fabuleuse quoi, une très grande musique composée pour le film. Et puis voilà, c'est un film très libre, c'est ça que j'ai aimé, c'est un film français extrêmement libre dans sa forme.
Et c'est un premier film, non, c'est ça?
Alors, en fait, non, c'est pas un premier film. Ça, c'est moi qui totalement...
Non, mais
je prêche à tout le monde que c'est un premier film, mais ce n'est pas un premier film. Mais parce qu'il y a cette liberté un peu du premier film, cette envie de tout dire, mais c'est pas du tout un premier film.
D'accord,
c'est
non, un deuxième, troisième. D'accord, très bien. Non, mais du coup, je l'ai vu aussi et j'ai trouvé ça assez génial, assez jouissif. Effectivement, la musique, elle est mortelle. Et le personnage principal, moi, c'est une espèce de Pierre Richard un peu zinzin que je trouve complètement lunaire. C'est vraiment, vraiment génial.
Vous écoutez Allegre FM 93.1.
Et on est bien sur Popcorn et Banjo, la quatrième, la seule émission qui parle de cinéma et qui diffuse de la musique country. Autre coup de cœur, alors toi t'es un peu plus ambigu sur ce film, l'histoire de Suleiman.
Voilà. Le mauvais Ken Loach.
Mauvais Ken Loach, selon Charles. Eh bien, ouais. Moi, je trouve que c'est aussi un très très bon film. Voilà, l'histoire de ce livreur Deliveroo qui se bat pour essayer de s'en sortir et d'avoir un visa de travail à Paris et une situation déclarée dans une situation valide, quoi, pour vivre en France et puis qui enchaîne les galères. Et bah voilà, bon, moi j'ai trouvé le film excellent, j'ai trouvé fin, juste, j'ai trouvé qu'il n'y avait pas de jugement et que c'était vraiment, en plus, un énorme, énorme acteur, en fait, hein, qui joue son propre rôle, qui n'est pas un acteur professionnel au départ. Et ouais, je suis rentré dans le film, j'ai pas décroché, quoi. Je sais que toi, t'as eu plus de mal, si tu veux.
Oui, non, mais moi, c'est vraiment. Moi, c'est très personnel, mais quand j'ai eu mauvais Ken Loach, j'adore Ken Loach, hein, par ailleurs, mais il a quand même certains films que je trouve plus compliqués ou moins bien foutus. Et moi, ça m'a vraiment rappelé Sorry We Missed You, sur l'ubérisation.
Que je n'ai pas vu.
Et qui parle d'ubérisation, justement, du travail. Et où, en fait, c'est pareil, c'est un homme qui enchaîne les galères, mais sur, en fait... Alors, Suleiman, c'est sur deux jours. Sorry We Missed You, je crois que c'est sur une semaine. Mais le mec, en fait, il part du point A au point B. Enfin, à la fin, tout a brûlé, tout est horrible. On a l'impression que c'est des couches et des surcouches et des surcouches de misère. Non pas que ça soit pas possible et plausible, et le réalisateur du film est en plus documentariste, donc il a certainement dû poncer le sujet. Il s'est dit, bon, bah, quoi de mieux qu'un film pour raconter cette histoire plutôt qu'un documentaire que peut-être les gens verront un peu moins. Donc je trouve ça super qu'il ait voulu mettre plein de choses dedans. Mais pour moi, au bout d'un moment, je fais, en fait, c'est trop, quoi. En fait, il y a un moment, il se fait percuter, il se fait voler, il se fait machin. Tu fais, bon, ça suffit, quoi. Il y a un moment où je préfère qu'on me raconte une histoire un chouïa moins dense, mais où on s'attarde un peu plus sur des séquences, tu vois, que ça soit par exemple quand il rate son bus, justement avec sa meuf qui est toujours en Afrique, et où ça se passe, où c'est compliqué. J'aurais préféré qu'on étire un peu plus des séquences, plutôt que de à chaque fois nous tabasser avec « alors ça va être horrible, et puis après ça va être pire encore, et puis après c'est encore pire ». Alors effectivement, il y a un espèce de roulement de loi de Murphy, mais moi, il y a un moment, ça passe plus, quoi. Ouais. J'en ai un peu ma claque. Au bout d'une demi-heure de film, en fait, je sais déjà, du coup, que ça va... que je vais m'en prendre encore une, et encore une, et encore une, et j'en ai un peu marre de ça.
En tout cas, on est sur une grande année en termes d'entrée, de retour en salle du cinéma français, avec des films comme Un petit truc en plus, des films comme Le Comte de Monte Cristo, des films comme, bah, même pour le coup, L'Histoire de Suleiman a très bien marché aussi. Là, le dernier, Louise Courvoisier, qui est déjà à 600 000 entrées, Vain Dieu. Donc ça, c'est rassurant, ça fait plaisir. Et il y a un film français sur lequel je sais que toi et moi, pour le coup, on est assez alignés. C'est le film de Baptiste Debrault, premier long métrage, si tu veux dire quelques mots sur ce film.
Un homme en fuite. Pour Suleiman, même si je dis ça, je trouve pas le film mauvais par ailleurs, hein. C'est juste que je trouve le film moyen. Je sais que j'ai l'air un peu méchant comme ça sur le film, mais je trouve pas ça mauvais non plus, hein. C'est pas. Mais oui, le film de Baptiste Debrault, Un homme en fuite, avec Bastien Bouillon et Léa Drucker. Premier film.
Et Pierre Lottin.
Et Pierre Lottin qui est magistral.
Excellent.
Ouais, vraiment qui est super. Film d'enquête vraiment assez classique, mais par contre, moi je trouve que visuellement, je trouve ça tellement beau. Ça se passe dans les Ardennes. Pour un si petit budget et pour un premier long, je trouve que j'ai rarement vu ça dans le cinéma français ces dernières années, quoi. Vraiment, c'est bien ficelé, c'est hyper bien joué, on y croit vraiment. Et puis
la musique est signée par Feu Chatterton.
Ouais.
Bah, c'est sûr que là, on est dans un grand film qui croise quand même L'Île au Trésor. C'est un peu L'Île au Trésor rencontre une grève dans le milieu industriel des Ardennes. Un mix à la fois de vraiment de grands romans d'aventure avec en fond un polar Et comme tu dis, moi, ce que j'ai vraiment, la première chose qui m'a marqué, c'est l'élégance visuelle du film au service d'une histoire. On n'est pas du tout, attention, sur un film qui serait gratuit, sur une publicité qui pourrait être éclairée par les plus grands chefs opérateurs, avec des très beaux plans, mais un peu vain, quoi. Là, on est vraiment sur une élégance et sur un cadre. Il y a un point de vue, dès que Baptiste pose sa caméra, il y a un point de vue et c'est évident, il sait pourquoi elle est dans cet angle-là plutôt que celui-ci. Et ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup touché. C'est très classique dans sa facture, mais je parle sous le contrôle de... Enfin, je sais que c'est pas... Pour moi, c'est pas quelque chose de négatif du tout, et je sais aussi que pour le réalisateur, Baptiste Debrault, c'est pas non plus quelque chose de négatif, et d'ailleurs il est assez aligné avec cette idée d'être dans un cinéma assez classique narrativement, mais après c'est enfin visuellement, parce que narrativement il y a quand même trois temporalités sur le film, mais oui, grosse découverte, premier film avec une vraie fragilité émotionnelle dans sa dernière partie. Moi, j'ai ressenti des trucs émotionnels forts, quoi, alors que sur le papier, en fait, c'est pas forcément une histoire. D'abord, j'aurais du mal à m'identifier à cette histoire. C'est une histoire de criminels. C'est des milieux que je connais pas du tout, le milieu des Ardennes, les milieux industriels. Et puis, le travail du montage est très très bien fait. La monteuse, d'ailleurs, la monteuse de Thierry de Peretti aussi, qui est quand même un énorme réal français aussi. Et ouais, c'est un film qui vient me chercher, qui est venu me chercher émotionnellement. Et que je trouve très très réussi, et ça donne très envie de voir la suite, quoi.
Ouais, mais c'est effectivement, en termes de non pas de mise en scène, mais vraiment d'écriture pure, effectivement, c'est en fait c'est plein de couches vraiment de narration. Il y a d'un côté des amis depuis longtemps qui essaient de se retrouver. Il y a une histoire de braquage, il y a cette histoire de grève. Il y a plein de choses qui s'imbriquent. C'est en même temps un film effectivement social et en même temps d'aventure et en même temps policier. Et en fait, là, on pourrait avoir peur que ça ne s'imbrique pas bien. Ça se s'imbrique parfaitement, quoi.
Vous écoutez Allegre FM 93.1.
C'est donc Popcorn et Banjo, la quatrième, la seule émission de cinéma qui parle de cinéma, comme c'est le cas. je me suis un petit peu enroulé les pinceaux. Et qui diffuse exclusivement de la country. Et Charles, justement, tu vas nous parler d'une musicienne de country japonaise. À toi le micro.
Vous avez quand même du bol, hein, ils n'ont pas piqué le lecteur et les cassettes des Creedence.
Est-ce que vous savez ce qu'est le Grand Hall au prix? Pour la faire simple, c'est une émission légendaire de la radio, puis de concerts se déroulant à Nashville, et ce depuis 1925, réputé pour accueillir les plus grandes stars de la musique country. Et en ce samedi 7 novembre 1964, le soir de son 39e anniversaire, un événement unique se produisit. Ce soir-là, des légendes comme Johnny Cash et Earl Scruggs étaient présentes sur scène. Pourtant, la seule standing ovation de la soirée a été réservée à une personne, inconnue alors du public américain, une jeune femme âgée de seulement 23 ans, Tommy Fujiyama. Tommy est née à Nagoya, au Japon, en 1941. À 12 ans, elle commence la guitare et apprend syllabe par syllabe les chansons américaines comme Tennessee Waltz, son morceau fétiche. Elle se produit rapidement pour le gouvernement américain, sur des bases militaires, et ira également au Vietnam pour remonter le moral des troupes. Repérée par des impresarios, elle part pour les États-Unis, où elle se produit au Mint Casino de Las Vegas dans un spectacle intitulé Hong Kong Scandals. Ce qui prouve que pour certains, l'Asie, c'est juste un très grand pays avec plein de quartiers exotiques. Tommy, enchanté par cette opportunité, signe son contrat sans lire attentivement les tout petits caractères en bas de page et sans en saisir pleinement les termes, son anglais étant encore limité à l'époque. Elle se retrouve alors contrainte de donner 4 représentations par soir, 7 jours sur 7, pendant un an et demi. Ce rythme infernal finit par la pousser à bout, au point d'être hospitalisée à plusieurs reprises pour épuisement. C'est pourtant cette expérience qui lui ouvre les portes du prestigieux Grand Hall au prix, attirant l'attention des labels comme Nugget Records. Elle deviendra ainsi la première chanteuse asiatique à être invitée à cette institution emblématique de la musique country. L'année suivante, son single Lonely Together frappe les charts américains. Elle devient alors la première chanteuse country japonaise à se classer dans le top. Après une tournée d'un an et demi aux États-Unis, elle retourne au Japon. C'est en 2015 que Tommy Fujiyama refait surface aux yeux du grand public à travers un documentaire Made in Japan. Il retrace l'histoire fascinante de Tommy, de ses débuts au Japon à son ascension dans le monde de la musique. Le film met également en lumière son rêve de revenir sur scène, du grand Holoprix. Mais réussira-t-elle à remonter sur scène 51 ans après ses débuts? Je vous laisse le découvrir dans ce documentaire produit et narré par Elijah Wood, le Frodon Sakai du Seigneur des Anneaux. Ce retour sur ses racines musicales et son rêve de renouer avec la scène nous permet de mieux comprendre l'âme de l'artiste. En effet, le style de musical de Tommy Fujiyama s'inscrit principalement dans ce qu'on pourrait appeler la musique country traditionnelle, c'est-à-dire de la guitare, du violon, des balades narratives à l'image de Tennessee Waltz, ce qui colle parfaitement avec son style vocal clair, mélodieux et empreint de nostalgie. Ce style musical, profondément ancré dans la tradition, témoigne de l'authenticité et de la sincérité de Tommy Fujiyama en tant qu'artiste. Mais au-delà de sa musique, son histoire est celle d'une artiste et d'une femme qui a bravé les obstacles culturels pour faire briller son talent dans un univers où elle n'était pas attendue. Une icône méconnue de la musique country, mais une légende incontestable. Je vous laisse avec les titres Home on the Range, suivi de Silver Wings, de son album Visit America, sorti en 2002.
Give me a home where the buffalo roam, where the deer and the antelope play, where seldom is heard a discouraging word, and the skies are not cloudy all day. Home, home on the range, where the deer and the antelope play, where seldom is heard a discouraging word, and the skies are not cloudy all day.
Let's go. しにしないで Silver wings Shining in the sunlight Roaring engines Headed somewhere in flight They're taking you away and leaving me lonely. Silver wings slowly fading out of sight. Somewhere in flight, they're taking you away and leaving me lonely. Silver wings, slowly fading out of sight. Silver fading out of sight.
Vous écoutez Allegre FM 93.1.
Et vous êtes sur Popcorn et Banjo, la seule émission qui parle de cinéma et qui diffuse exclusivement de la musique country. Le 5 février prochain ressort en 4K, s'il vous plaît. Grâce à Carlotta Film, le grand film japonais Ichi the Killer, sorti en 2001 et réalisé par Takeshi Miike. Ichi the Killer, c'est un film qui est adapté d'un manga de Hideo Yamamoto et c'est le film d'un cinéaste japonais ultra prolifique, avec plus d'une centaine de crédits IMDb, de séries, de films, de téléfilms, de films directement en DVD, tout compris. Par exemple, en 2001, hein, l'année de Ichi the Killer, il sort quand même 6 films. Hein. Donc, voilà. Et Ichi the Killer est quand même une renommée internationale, donc il y en a 5 de plus. C'est aussi le cinéaste de Audition qui sort en 1999, ou de la trilogie très connue Dead or Alive qui commence aussi en 1999. Takeshi Miike, cinéaste de la violence, du sexe, du gore, et tous ces éléments-là, on les retrouve dans Ichi the Killer qui retrace l'histoire de Kaki Hara. Alors, Ichi the Killer, c'est l'histoire d'un chef de gang Yakuza qui disparaît. Il laisse pas de traces, on sait pas où il est passé. Le numéro 2 du clan, Kaki Hara donc, est un psychopathe violent et sadique. Il décide de mener son enquête parce qu'il est très attaché à son patron et il veut retrouver la personne qui l'aurait tué ou tout simplement son patron qui pourrait avoir disparu. Et puis au fur et à mesure de l'enquête, on commence à discuter d'un certain Ichi. Qui serait un assassin et qui laisserait des traces, enfin, qui ne laisserait pas de traces d'ailleurs, on l'apprend plus tard dans le film, mais qui massacrerait les gens d'une manière absolument extrême et très très violente, totalement hors de contrôle, et qui serait surtout encore peut-être plus cruel que Kaki Hara. Et puis, tout le film va amener vers cette confrontation entre Ichi et Kakihara. Voilà. Charles, toi, c'est un film que tu apprécies beaucoup plus que moi. Il y a beaucoup de choses que j'ai aimées aussi, on y reviendra. Mais bon, toi, c'est quand même un film aussi un peu de ton enfance. Donc, je ne sais pas, je te laisse t'exprimer.
C'est mon petit film un peu doudou, quoi. j'ai envie de dire, ce film sadomaso, BDSM, vraiment à fond les ballons. Ouais, c'est un film, je crois que c'est un des... Je pense sincèrement que c'est un des premiers films japonais que j'ai vu, même de ma vie. Je pense que je devais avoir, j'avais moins de 15 ans en tout cas, c'est ouais. sûr, 13-14 je pense. Et j'étais fan de films d'horreur, et j'étais à mon petit vidéoclub de quartier, et il voit que je prends Maniac, il voit que je prends des trucs un peu barjo, et il me dit, mais est-ce que tu mets un peu d'autres trucs que du cinéma américain? Parce que je prenais que ça, et il fait, attends. Et il me donne Ichi the Killer, et je vois, alors la pochette à l'époque, je crois que c'était un fond blanc avec vraiment le visage de ouais. Kakihara. Donc Kakihara, le personnage principal, il y a des cicatrices partout, il a des piercings auprès de la bouche, il est un visage un peu dérangeant, quoi.
Ouais.
Et je me dis, wow, qu'est-ce que je vais voir, quoi. Et ben, j'ai pas été déçu. et même encore aujourd'hui, de le revoir, je pense que je l'ai pas revu depuis, hein. Et de le revoir dans un bon master, et c'était mortel. Alors, en dehors de cet affect que j'ai pour ce film un peu nostalgique, moi, j'adore la folie de Takeshi Miike, quoi. C'est un film qui est méchant à tout point de vue. Donc, les deux personnages principaux, comme tu disais, c'est Kakihara, donc ce mec yakuza qui, lui, adore la violence, qui est pétri de méchanceté, de sadisme, qui torture les gens.
Il prend son pied.
Il prend son pied à faire mal aux gens, à se faire mal à lui-même. Là où Ichi the Killer, c'est le contraire. C'est l'autre spectre de la violence. C'est quelqu'un qui n'est pas conscient de sa propre violence, qui n'est pas conscient de lui-même et qui, en fait... quand il pète un plomb et qu'il tue quelqu'un, il s'en veut après, mais par contre il le fait avec une violence absurde, il y a du sang partout, il y a des bras qui sont accrochés au plafond, il y a vraiment des hectolitres de sang.
C'est des impulsions, il est sous domination de ces pulsions de violence.
Et bah, il est, là où effectivement il est dominé, il est soumis à la violence. Kakihara, lui, donne de la violence aime ça, il se procure, et d'ailleurs c'est pour ça qu'il est fasciné par la figure d'Ichi, tout ce qu'il attend ça le fait frissonner, il a peur et en même temps il a envie de se battre contre lui, et pas, il a peur d'excitation, quoi. Il a un truc hyper malsain de...
Parce qu'il sent aussi, c'est ça qui est assez intelligent, il sent, donc on ne sait pas qui est Ichi pendant longtemps dans le film, et Kakihara, il traque ce mec-là parce qu'il se dit qu'il est responsable de la mort de son patron, mais aussi parce qu'il est dans une quête personnelle où il sent que Ichi est plus fou que lui et le fera vivre des choses de l'ordre des sensations physiques, quoi, qu'il n'a jamais vécu, et comme il est dans un truc BDSM assez hardcore, il sait que ça peut l'emmener loin, quoi, et c'est ça qui est très ambigu et très, très marrant dans le film.
Ah bah, c'est-à-dire que dès que Kakihara se fait frapper, il kiffe, il dit, mais frappe-moi plus fort, en fait, qu'est-ce que c'est ton problème? Mais c'est en même temps... Alors, il y a ce côté... Moi, c'est ce truc que j'adore, c'est ce côté, on va dire... C'est pas... Je sais pas si le film est amoral, mais en tout cas, il y a une non-moralité à travers ces deux personnages qui sont en fait qui sont atroces, quoi. Les deux, tu suis des personnages qui sont complètement psychopathes et en même temps tu t'amuses avec eux. Il y a un côté, effectivement, c'est tiré d'un manga et tu sens vraiment le côté foisonnant du manga. Ça se découpe de partout.
Ouais. Un peu cartoonesque.
Ouais, les personnages sont tellement excentriques que finalement comment? Les personnages sont tellement cartoonesques que la violence ne te dérange plus, on va dire.
Oui, oui, oui.
Parce que sinon, vraiment, il y a des séquences qui sont tellement qui sont intenses. Il y a des gars qui sont accrochés à des trucs de boucher, il y a de l'huile bouillante. Enfin, il y a des choses quand même assez violentes.
Ouais, ouais.
Mais comme c'est pris avec ce petit pas de côté, petit décalage de... En fait, ce qu'on kiffe, nous, c'est justement ça, c'est la cruauté et le sadisme. Bah, du coup, ça passe complètement, quoi. Donc cette thématique-là, moi, m'intéresse beaucoup.
Et tu parles d'amoralité, il y a quelque chose d'important dans le film quand même, et qui pour le coup est assez amoral, c'est que Ichi, il est sous une emprise hypnotique, il a été hypnotisé, on lui a mis dans le cerveau des souvenirs qu'il n'a pas vécu, mais qui nourrissent ses pulsions de meurtre. Et résultat, en fait, il est victime de pulsions à partir de souvenirs qui n'existent pas et qui sont construits de toutes pièces. Et ça, c'est aussi assez dérangeant, même si, comme tu dis, le film, il y a... franchement, il a un côté pop, si j'ose dire, dans la violence.
Ouais. Ah bah, complètement, oui.
Très cartoon, pop, assez cool.
C'est très acidulé, mais même dans la mise en scène, ouais. Y a des images, ça barbouille de partout, il y a des ralentis, il y a des accélérés, il y a des images un peu, pas infrarouges, mais... Je sais même pas. Il sature à fond, j'ai l'impression, par moment.
Et ça n'a pas vieilli, hein. Quand même. Ah, tu trouves que ça a pris un petit coup de vieux? Moi, je trouve que ça se regarde vraiment.
Je pense que ça n'a pas vieilli parce que, en fait, l'univers en lui-même est très kitsch aussi. Ouais. Je pense qu'il y a ce truc-là où peut-être c'est tellement c'est tellement grand guignol que de toute façon tu acceptes ça dans le film. Et après, la mise en scène, je la trouve très 2000 quand même. Hein.
Ouais, ok.
Dans sa, bah justement, dans ces très clipesques, dans ces accélérations. Ouais, exactement.
Ouais.
Même dans ces balades de quand tous les plans dans les rues où
ça s'accélère et puis on finit sur le portrait de visage d'un mec.
C'est ça fait très très 2000, je trouve. Mais ça me dérange pas. J'ai aussi vécu avec ça. Hein.
En tout cas, il y a un truc, ce qui est intéressant avec Kitsch is the Killer, et c'est un peu ce que tu disais par rapport à ton anecdote sur le Vidéoclub. C'est quand même un film jouissif aussi, en tout cas c'est mon point de vue. Moi je l'ai découvert, là j'ai 32 ans, je vais avoir 33 ans, je l'ai découvert à cet âge-là. Mais c'est un film, l'affiche elle est restée dans ma tête toute mon enfance. Et je pense que c'est un peu le film transgressif qu'a pu louer le grand frère. Et toi t'es le gamin, enfin je parle pas de toi Charles, mais toi t'es le mec dans ta maison qui a accès soudainement à une VHS interdite quoi. Le grand film transgressif et dans laquelle avec une affiche qui a travaillé ton imaginaire pendant plusieurs jours voire plusieurs mois. Et moi c'est un peu comme ça que j'imaginais, c'est-à-dire que Itch is the Killer, tout de suite l'affiche me revient, tout de suite j'ai une idée de ce que peut être ce film. Et en le voyant, quand même très cool, on va pas se mentir, très cool, très sympa. Mais je pense que le voir un peu plus jeune, ça te met dans des... Enfin, il y a un côté hyper... un peu rock'n'roll, quoi. Ah ouais. Tout d'un coup, t'es le jeune gars qui a vu Itch is the Killer, t'es le roi de la cour de récré, t'es le roi... Enfin, tu vois, il y a un truc hyper transgressif qui est marrant.
Ah bah, c'est surtout que même tout dans Kakehara te fait dire « ressort ton petit côté émo », quoi. C'est-à-dire, vraiment, il a des énormes balafres sur les joues et des piercings. Et en fait, quand il fume sa clope, par exemple, la fumée sort de ses joues, quoi. Ça, c'est un des premiers plans du film. Et alors, quand t'es gamin, moi, je fume toujours pas, d'ailleurs, mais quand tu sais que la cigarette, c'est un peu transgressif et tout, déjà, tu vois, t'as 13-14 ans, tu fais « oulala, il fume !» Et en plus, ça sort par les joues. C'est genre « wow, le gars est fou, le gars est zinzin. » Et puis après, ce qu'il fait, c'est encore plus zinzin. Mais ouais. Tu vois, juste cette image d'un mec qui clope, tu fais « bah, c'est déjà beaucoup pour toi, tu vois ?»
Et je rappelle que ça ressort en 4K grâce à Carlotta Film au cinéma, l'occasion de le voir quand même dans des conditions extraordinaires. Et puis ensuite en Blu-ray 4K pour ceux qui auraient le matos pour lire tout ça.
Vous écoutez Allegre FM 93.1.
Et nous allons tout de suite enchaîner avec le deuxième film. Donc là nous allons parler de La Vengeance d'une Sirène, donc un film japonais réalisé par Toshiharu Ikeda. En 1984. Alors, pour vous résumer l'histoire, ce film raconte l'histoire de Migiwa et de son mari Keizuke dans un petit village de pêche où des gros méchants industriels veulent construire une centrale nucléaire très très polluante. Et après l'assassinat du mari Keizuke et sa propre tentative de meurtre, Migiwa, laissée pour morte, trouve refuge sur l'île de Wakatano. J'espère que ça ne fait pas trop d'informations pour vous. Et devenue une figure vengeresse, elle prépare une implacable revanche contre ses bourreaux. Et ce film mêle vraiment réalisme social et figure mythologique japonaise et nous propose un récit de vengeance vraiment à la beauté, je trouve, époustouflante. Et je crois que Thomas, tu n'as pas été insensible à ce chant des sirènes.
Mais vraiment pas du tout. Moi, j'ai adoré ce film. Très, très grosse révélation. Je précise qu'il ressort en 2K cette fois-ci, en Blu-ray le 4 février et encore grâce à nos amis de chez Carlotta Film. Oui, comme tu dis, il y a du social, mais il n'y a pas que ça. La première partie du film, j'ai trouvé très belle. On est vraiment sur des plans aquatiques de cette femme. Alors, c'est sur cette région du Japon où il y a ces pêcheuses
d'algues, d'huîtres,
d'algues, qui pêchent en apnée, qui plongent en apnée et qui ramassent donc à haute profondeur, grande profondeur, qui ramassent des huîtres et tout ça. C'est y a d'ailleurs un très joli livre de Le Clésio qui s'appelle Tempête et qui parle de ça. Et puis il y a un photographe aussi.
Oui, je pourrais le retrouver là, mais là j'ai.
On retrouvera. Pardon, je te piège un peu. Il y a une très belle exposition à Arles sur ce photographe
l'année
dernière. Oui, que j'ai vu,
qui était magnifique. Ouais.
Qui prend en photo ces femmes qui, à une époque, plongeaient nues, puis qui maintenant plongent dans des combinaisons particulières et qui représentent tout un imaginaire étonnant de ces îles japonaises. J'ai beaucoup aimé le début, j'ai beaucoup aimé justement la musique aussi. Très, très belle musique, très envoûtante. Et puis, bon, ben voilà, on est plongé dans un univers aquatique. Moi, j'aime beaucoup les films sous-mariniers. Sous-marin, tu as le nom du.
Ah oui, pardon, je voulais pas te couper, mais
je vois que tu as le nom du.
Effectivement, le photographe s'appelle Uraguchi Kuzukazu.
Voilà, donc toujours des petites pistes à aller creuser sur le côté Tempête de Le Clésio et puis ce photographe japonais qui a aussi travaillé sur les
hamas, du coup.
Ça s'appelle les hamas, ouais. Ok. Merci. Et bon, voilà, La Vengeance de la Sirène, un film étonnant, avec quand même deux scènes de sexe, il faut le dire, qui sont complètement folles. Il y a une animalité dans la mise en scène de la sexualité qui est étonnante, avec une caméra à l'épaule très exaltée, des plans serrés sublimes sur le visage de Marie Shirato, qui est incroyable dans le film. Et puis, c'est intéressant parce qu'il y a une bestialité dans cette première scène, et dans la deuxième scène, c'est une scène de sexe qui bascule jusqu'à une scène d'assassinat. Et alors là, ça devient une scène de meurtre. Enfin, c'est totalement possédé, quoi. Enfin, moi, j'étais complètement choqué par ce que je voyais. L'actrice, elle est magistrale. Et puis, surtout, mais tu vas nous dire ce que tu penses du film, et puis on va y revenir, je pense. Mais bon, la puissance du film, elle est dans sa dernière partie. Là, vraiment, on a de la bestialité, des plans séquences épuisants. C'est la partie vraiment de vengeance où Marie Shirato va se venger de la mort de son mari, et avec un armé d'un harpon, et puis dans son costume de sirène, hein, c'est vraiment une espèce de, je sais pas, une tenue blanche, quoi, assez basique.
Ouais, c'est la tenue traditionnelle des hamas.
Voilà. Elle va harponner au corps à corps le plus possible de personnes qui travaillent dans cette usine, mais on parle vraiment de dizaines et de dizaines de victimes.
C'est intense, ouais.
C'est très physique dans la mise en scène, on la suit caméra à l'épaule, c'est hyper énergique, ça faisait très longtemps que j'avais pas vu un film comme ça. C'est un grand film de vengeance, peut-être parfois, on peut peut-être le caser dans le Rape and Revenge, mais je pense que c'est beaucoup plus que ça. Mais en tout cas, il y a aussi cette histoire-là en creux. Et puis, il y a une énergie communicative dans le film qui est fabuleux. Je ne sais pas si tu veux rebondir là-dessus, mais c'est comme un shoot d'adrénaline, quoi.
Après, ce qu'il faut dire, c'est qu'effectivement, la dernière partie est super. Et la première partie aussi, il y a juste une espèce de ventre mou qui dure peut-être 20-25 minutes, grand max. Mais ça n'enlève en rien la qualité intrinsèque du film. Hein. J'ai adoré aussi La Vengeance d'une sirène. J'ai trouvé ça. Moi, je connaissais pas du tout ce film, je connaissais pas du tout le réel, et j'ai trouvé ça génial. Alors, il y a plusieurs choses que j'ai aimées, effectivement. Je vais pas répéter ce que tu as dit, mais moi, je dirais que c'est vraiment comme je disais au début, il y a une espèce de réalisme social qui est très présent sur la pollution des eaux,
ouais.
Sur aussi les hamas, donc c'est vraiment une pêche traditionnelle qui, en fait, est vouée à plus ou moins disparaître. Ça parle aussi de ça, je trouve, beaucoup. Donc il y a en même temps ce côté vraiment presque, moi je trouve militant, et la fin du film est presque anarchiste. Je trouve vraiment, il y a cette pulsion de « on va tout détruire ». Que je trouve génial, et en même temps, ça parle du folklore japonais, ça parle justement des sirènes, ça parle des créatures fantastiques, ça parle de Bouddha qui pleure des larmes de sang noir. Il y a comme ça une espèce de toute une mystique autour de ce réalisme très, très présent, et le mélange des deux, moi je trouve assez beau, assez magnifique, et ça te plonge vraiment dans une culture japonaise que, de toute façon, je ne connais pas très bien, et que j'ai pu, effectivement, grâce à l'expo là que j'ai vu à Arles, je connaissais du coup seulement un peu le Cerf des Sirènes, mais là, on arrive du coup dans ce moment où les traditions sont détruites, en partie, en tout cas c'est ce que moi j'ai l'impression de parler du film,
bien sûr,
par le capitalisme, par l'envie de puissant de détruire la faune, la flore, et une femme va en fait
se lever.
Dire non et se lever, et se venger en fait de tout ça quoi. Donc moi c'est vraiment ce que j'ai aimé, c'est ce réalisme, cette poésie, cette violence effectivement finale, mais ça dure, je sais pas, ça durerait bien 45 minutes quand même, hein, de vraiment d'intensité où là on se laisse plus faire. Vraiment, c'est pour moi, c'est pas loin d'être un très, bon, même je pense que c'est pas loin, c'est énorme, même je trouve que c'est un très très grand film en fait.
Mais c'est vendu aussi, hein, quand même, c'est aussi vendu comme un film engagé sur l'environnement, etc. Dans la promotion du film, donc c'est vachement intéressant ce que tu dis, parce que c'est vrai que quand même en creux, c'est l'histoire d'une grosse société qui avale. Les pêcheurs locaux, quoi, et qui les détruit.
Oui, puis ça le montrait littéralement. C'est quelqu'un qui dit, en fait, on dit qu'on fait un parc d'attractions, mais en fait, pas du tout, on fait une centrale nucléaire. En fait, on fait un gros bras d'honneur aux gens. Et en fait, j'ai l'impression que la fin du film se passe aussi sur l'île du début, donc là où il y a les Hamas, et on a l'impression que, justement, tout le monde est parti, tout a été détruit, rasé. Donc, il y a vraiment pour moi, c'est vraiment ce qui m'a marqué dans ce film, c'est... Alors après, on peut pas dire que ça soit hyper fin dans sa manière de parler de la chose. Hein.
Oui, oui.
Mais par contre, l'intensité que met le réalisateur là-dedans est superbe. Et puis, effectivement, comme tu disais, il y a des scènes de boucherie, mais pas que. C'est les personnages qui vont attaquer cette femme... Et surtout, le personnage dont on parle, on va pas trop spoiler non plus, mais je le trouve, la scène d'agression qu'elle subit, et où de agresser devient agresseur, on va dire en tout cas, elle part dans un truc de revanche, parle aussi de cette domination masculine, qu'elle soit en fait physique, morale, mentale, et en même temps sur le pouvoir de l'argent. Et c'est une séquence qui dure bien 10 minutes, je pense, facile.
Ouais, ouais.
Et qui est magistral. Je trouve que c'est vraiment la séquence du film, avec bien sûr la séquence de fin, mais qui est plus glorieuse et presque la fin est presque mythologique, avec justement ce trident, harpon. Il y a vraiment ce truc-là, une mythologie japonaise qui s'installe.
Et d'ailleurs, les scènes d'action, les scènes de mise à mort ou les scènes de sexe, elles sont toujours tournées en plan séquence, ou en tout cas sur des durées de plan vraiment longues. Et moi, ça me rappelle. Surtout dans sa dernière partie, il y a quelque chose dans l'ordre de un peu de Peckinpah, c'est-à-dire la scène. Enfin, tu vois, c'est vrai que là, mais ça me vient vraiment maintenant quand tu m'en parles, quand tu dis ouais, c'est une scène qui dure 45 minutes au moins. En fait, moi, j'ai pas beaucoup d'exemples de films où soudainement il y a 45 minutes de déchaînement de fureur, mais j'en ai beaucoup dans la carrière de Peckinpah, que ce soit la fin des Chiens de paille, la fin de La Horde sauvage, et il y a un petit peu ça avec, et c'est là où c'est intéressant, chez Peckinpah, il y a évidemment une stylisation énorme de la violence.
Ouais, et la mythologie, et aussi une espèce de mythologie du western.
Et une mythologie du Far West, complètement. Mais je pense que dans ce film-là, La Vengeance de la Sirène, il n'y a pas tant le En tout cas, dans la scène de fin, il y a un côté quand même aussi très terre-à-terre qui est vachement appuyé par la caméra à l'épaule, là où chez Peckinpah, il y a des ralentis, des montages en trois temps sur la mort des personnes, etc. Là, on est sur un truc assez radical et il n'y a pas ce style extrême, cette stylisation, mais il y a beaucoup de style. Et je trouve ça vachement étonnant et le film est dit... avoir inspiré Kill Bill et Lady Vengeance, bon, aucune idée, mais en tout cas ça se tient quelque part, surtout pour Kill Bill. Après, bon, Tarantino, il s'inspire toujours de milliers de films, et d'ailleurs il le clame haut et fort, hein, c'est pas un secret. Donc oui, il a peut-être pris un peu là-dedans, mais je trouve que on est dans un, c'est sûr que déjà en 1980, on a un portrait de femme. Qui est détonnant, quoi.
Ouais, après dans les petits défauts qu'il y a, par exemple le mari, c'est quand même, elle sort avec un mari qui est à moitié alcoolo, qui est un peu chelou, elle l'aime si fort que c'en est un peu gênant.
C'est
mais
vrai.
Donc bon, il y a quand même certains clichés ou certaines choses qui peut-être pourraient un peu qui peuvent gêner, mais ça n'enlève en rien de la puissance émotionnelle qu'elle apporte et de la beauté de ce film.
Et puis rappelle-toi quand même, une fois que le film s'est terminé, donc comme vous le savez peut-être déjà, nous on a l'habitude d'essayer en tout cas de regarder les films ensemble pour préparer cette émission, et le fait est que il y a eu un espèce de blanc à la fin du film, on a eu du mal à à enchaîner, quoi, à se remettre à parler, à potentiellement lancer un autre film pour l'émission. Enfin, on a eu un moment où il nous a fallu une pause pour reprendre un peu notre respiration, quoi, tellement bah, c'était intense.
Ça nous a séché, mais parce que, en fait, ça fait quand même... J'adore Itchy the Killer, hein, mais ça... Et je trouve que c'est aussi un grand film dans moi, ma cinéphilie, mais je peux pas dire que ça soit non plus le chef-d'œuvre de l'année 2001, tu vois. Alors que là, je vois La Vengeance d'une sirène, et je me dis, ok, là, je crois que je viens de voir un truc, mais immense.
Ouais, ouais, je suis d'accord, immense.
Tout en étant, encore une fois, très simple dans... Enfin, simple, je sais pas si c'est le mot, mais dans une facture assez film de genre...
Ouais.
Mais qui va bien au-delà de ça pour moi, en tout cas. Ouais. Et moi, ça me touche tellement quand l'histoire frise avec le fantastique, elle prie pour des tempêtes. Enfin, il y a tout un.
Ah, ça, c'est fou la scène où elle est en contre-plongée dans le noir et que oh, ça, c'est dingue. Ouais. Tout d'un coup, elle invoque une tempête, il y a de la pluie et il y a les forces de police qui veulent l'arrêter et qui se font balayer par la tempête, quoi.
Ouais, complètement. Et tu vois, c'est ce truc-là où justement, tu as ce côté très réaliste ou très violent, et puis d'un coup ça repart vers du fantastique, ça repart, et en fait en fait à chaque fois le réalisateur arrive à te tirer ailleurs, avec en même temps une beauté des paysages, une beauté de la géographie japonaise ultra présente.
Et voilà, je rappelle que ces deux films, Itchy the Killer, ressortira le 5 février en 4K au cinéma et en Blu-ray, et que La Vengeance de la Sirène ressortira le 4 février prochain en 2K en Blu-ray. Deux films donc à revoir et à idéalement glisser dans sa collection de DVD et de Blu-ray. Popcorn et Banjo, la quatrième, c'est terminé. Remerciements à Charles, merci d'être là, toujours présent.
Merci Thomas.
Remerciements à Enrico Mastrogiovanni et Damien Gissa à la réal de cette émission. Merci les gars. Popcorn et Banjo, la quatrième, c'est terminé. On se retrouve le mois prochain pour la cinquième.
1, 2, 1, 2, 3, 4.
Quand la musique s'arrêtera, ramasse ton pistolet.
Tâchez d'éviter ces explosions d'injures et de mots orduriers qui ne peuvent que gâter une affaire.
Je n'ai jamais vu quelqu'un tuer un poisson comme vous l'avez fait.
Alors vous n'avez jamais rien vu.
Aligre FM 93.1.